Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la Grande-Bretagne au bord du chaos. Les députés ont de nouveau rejeté hier soir l'accord sur le Brexit négocié par Theresa May avec l'Union européenne. Les députés doivent à présent se prononcer sur un Brexit sans accord ou sur un éventuel report. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Un débat bien français, la privatisation, avec aujourd'hui le cas Aéroport de Paris. Les lycéens qui ne veulent pas se faire voler leur manifestation vendredi contre le climat. La condamnation de l'ancien numéro 3 du Vatican pour acte pédophile. Et la célébrité, selon Xavier Dolan, le jeune réalisateur québécois qui sait de quoi il parle.
Les invités de France Inter ce matin. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
7h50.
Ils se bousculent tous au portillon, à droite, à gauche, à La République En Marche. Ils rêvent tous ou presque de remplacer Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Dernière candidature en date ce matin en exclusivité, l'ex-conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée. Il s'appelle Gaspard Ganzer. Il est notre invité à 7h50.
A tout à l'heure Léa. À 8h20, un grand entretien en forme de table ronde sur l'Algérie. Le renoncement du président Bouteflika est-il une victoire pour les manifestants ou une ruse, une autre ruse du pouvoir? On en parle tout à l'heure avec nos invités. Vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000.
France Inter. À 16 jours du Brexit, les Britanniques retiennent leur souffle car à l'heure qu'il est, rien n'est acquis. Un Brexit sans accord, les députés doivent se prononcer ce soir. Un report du Brexit, les députés se prononceront demain. Car hier soir et pour la deuxième fois, le Parlement britannique a rejeté l'accord négocié d'arrache-pied par Theresa May avec l'Union européenne. 391 voix contre, 242 pour et un échec qui laisse la première ministre britannique exsangue. Antoine Gignot est le correspondant de France Inter à Londres.
La photo fait la une des tabloïds et des journaux. Theresa May, le regard vide, les bras ballants à l'annonce des résultats du vote. Le scrutin la laisse sans voix, au sens propre comme au sens figuré.
Je regrette profondément la décision que le Parlement a prise ce soir. Je vais être très clair. Ce n'est pas en votant maintenant pour une sortie sans accord de l'Union européenne ou en votant pour repousser le Brexit qu'on va résoudre nos problèmes. Il y a des choix qui ont été faits, il va falloir les assumer.
Car les députés vont maintenant devoir se prononcer sur une sortie sans accord ou sur un éventuel report du Brexit. Theresa May se dit prête à appuyer le scénario que choisiront les parlementaires, mais Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes, réclame sa tête.
La première ministre a voulu jouer la montre et c'est elle qui a perdu. Il est peut-être temps d'organiser des législatives anticipées pour que les gens puissent choisir qui doit gouverner.
Et étonnamment, les patrons britanniques ne sont pas loin de partager la même opinion. Dans un communiqué, la Confédération des industries laisse échapper cette phrase « Il est temps que le Parlement arrête ce cirque ». Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Une situation qui inquiète effectivement les milieux économiques depuis le référendum sur le Brexit. Il y a presque 3 ans, 1000 milliards d'actifs ont quitté la City. 275 sièges de banques ou d'établissements financiers se sont installés en Irlande, au Luxembourg, en France ou encore en Allemagne. Et les réactions sont unanimes dans l'Union européenne ce matin qui, à l'image de Paris, estime que la solution à l'impasse actuelle ne peut être trouvée qu'à Londres.
Et en France, Agnès, c'est le débat, il est 7h04 sur les privatisations avec aujourd'hui celle d'Aéroports de Paris.
L'État veut vendre ses parts qui représentent 50,6% du capital d'ADP, tollé de l'opposition et des départements franciliens. La privatisation d'Aéroports de Paris est l'un des sujets phares de la loi Pacte qui revient en deuxième lecture à l'Assemblée aujourd'hui. Interrogé hier sur notre antenne, Benjamin Griveaux a d'abord annoncé que l'État allait garder 20% des parts avant de rétro-pédaler. Car Laurent Kramer, le sujet n'est pas tranché.
Officiellement, toutes les options resterait sur la table, explique Roland Lescure, rapporteur de la loi Pacte.
L'État n'a pas nécessairement besoin d'être actionnaire d'ADP pour maintenir le contrôle sur l'essentiel. Donc cela dit, Bruno Le Maire l'a bien dit, les options sont ouvertes, donc on peut imaginer garder partie du capital.
Manœuvre pour calmer le feu des critiques, estime l'opposition, car le gouvernement souhaite bien retirer le maximum de la vente d'ADP, une vente au plus offrant qui impliquerait de vendre l'intégralité des actions détenues par l'État, une ineptie selon Stéphane Troussel, président socialiste de cette Robinson.
Même les pays les plus libéraux, je pense aux États-Unis, n'ont pas fait ce que le gouvernement français s'apprête à faire.
Pour peser sur l'avenir et la gouvernance d'ADP, sept départements franciliens proposent donc à l'État d'acquérir 30% d'ADP, scénario à 6 milliards d'euros avec l'appui d'un fonds d'investissement français qui implique une vente prioritaire de gré à gré entre l'État et les collectivités et dont le gouvernement ne veut pas entendre parler. Le gouvernement se dirige donc vers un appel d'offres international, se désole Patrick Devedjian, président des Hauts-de-Seine.
Vous aurez un grand groupe étranger qui paiera sans doute une somme beaucoup plus élevée que celle dont on parle aujourd'hui, de très gros investisseurs internationaux, et le gouvernement devra politiquement assumer cela.
Véritable casse-tête pour ne pas transformer la privatisation d'ADP en impasse politique.
Et selon le Canard enchaîné ce matin, citant un conseiller d'Emmanuel Macron, l'Élysée souhaiterait évincer Vinci, le groupe qui gère de nombreuses autoroutes en France, souffrant d'une image exécrable auprès des Gilets jaunes, notamment. ADP qui connaîtra aujourd'hui le jugement dans l'affaire de l'effondrement du terminal 2E de Roissy qui avait fait 4 morts il y a 15 ans. Une amende de 225 000 euros avait été requise contre ADP par le tribunal correctionnel de Bobigny. Jugement aujourd'hui donc. Et puis une bataille d'experts dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré lors de son interpellation à Beaumont-sur-Oise il y a 2 ans et demi. Une contre-expertise médicale diligentée par la famille va à l'encontre des conclusions officielles. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Je débat, tu débat, il débat, nous débattons. Le grand débat national continue jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, une conférence nationale réunit les syndicats à Bercy pour parler fiscalité et dépenses publiques et au ministère de la cohésion des territoires pour parler services publics. Ils débattent aussi dans les lycées. C'est en tout cas ce que souhaite le ministre de l'Éducation nationale qui appelle à un débat sur la transition écologique dans tous les lycées. Vendredi, entre 16h et 18h, un casse-tête pour les chefs d'établissement. Sonia Princey.
Les établissements ont l'obligation d'organiser un débat sur le climat, mais les proviseurs doivent trouver des professeurs volontaires. Et pour Florence Delannoy, proviseur d'un lycée près de Lille et responsable syndicale du SNPDEN, le syndicat des chefs d'établissement, la mission est difficile.
Ah, ça ne s'est pas bousculé au portillon. Ça va nécessiter encore un petit peu de temps avant de savoir combien d'enseignants sont réellement volontaires pour ce débat. C'est un petit peu difficile de prévoir une organisation dans des délais aussi courts, même si le sujet effectivement est urgent. Cette urgence ne nécessitait pas une réelle précipitation à ce point.
Les élèves non plus ne vont pas se bousculer. Cette proviseure prévoit le débat avec une cinquantaine d'élèves seulement sur 1300. Dans d'autres établissements, ils seront tout simplement absents, comme l'explique Sébastien, professeur dans un lycée professionnel près de Chartres.
Nous, nos élèves sont majoritairement internes. Les cours se terminent à 16h, donc le ministre a proposé de 16 à 18h. Je pense que les jeunes ne resteront pas, vont sauter dans leur train. Des fois, ils nous demandent même de sortir de cours en avance, de peur de rater leur train. Donc, même si ils sont sans doute très sensibles au climat, mais je pense qu'aujourd'hui, leur préoccupation, c'est surtout de passer le bac. D'autant que là, cette semaine, c'est le bac blanc. Donc, autant vous dire que c'est quand même la priorité.
Il n'y a pas d'obligation pour les élèves à participer au débat dans leur lycée, précise le ministère. Beaucoup d'entre eux ont déjà choisi, ils préfèrent aller manifester.
Et les adultes manifesteront le lendemain, samedi 16, à l'appel d'une trentaine d'associations et de syndicats qui signent une tribune ce matin sur le site de franceinter.fr pour un printemps climatique et social, et parmi les signataires, la CGT.
Il est 7h08, Agnès, le monde suspend le vol des Boeing 737 MAX.
L'Union européenne a en effet annoncé hier l'interdiction de son espace aérien à ce type d'appareil. En fait, seuls les États-Unis semblent ce matin maintenir leur confiance en l'avionneur américain. C'est la plus haute personnalité de l'Église catholique condamnée pour pédophilie. Le cardinal australien George Pell, ancien numéro 3 du Vatican, vient d'être condamné à 6 ans de prison, dont près de 4 ans ferme à l'issue d'un procès historique et dont, fait exceptionnel, le jugement a été rendu en direct à la télévision. Correspondance à Melbourne de Caroline Lafargue.
George Pell est resté parfaitement stoïque, épargné par les caméras qui étaient toutes exclusivement pointées sur le juge Peter Kidd. Le cardinal n'a montré aucune émotion quand le juge a détaillé le viol qu'il a commis sur deux enfants de cœur en 1996.
Il est impossible que vous n'ayez pas été conscient de la gravité de vos agressions sexuelles choquantes sur ces deux garçons. Cardinal Pell, levez-vous s'il vous plaît. Je vous condamne donc à un total de 6 ans de prison. Dont 3 ans et 8 mois incompressibles.
Présent au tribunal, le père d'un des deux enfants de cœur, qui est décédé en 2014 d'une overdose d'héroïne, s'est dit triste et déçu de cette peine de prison qu'il juge trop clémente. Un avis partagé par d'autres victimes, d'autres pédophiles qui manifestaient devant le tribunal, comme cette femme qui souhaite rester anonyme.
Belle va en prison, c'est déjà ça. Mais cela ne rend pas justice à tous ceux qui se sont suicidés ou sont morts à cause de leur traumatisme.
Le cardinal australien continue à clamer son innocence. Le jugement en appel est prévu début juin, mais en attendant, le voilà inscrit à vie sur le registre des délinquants sexuels. Et bien sûr, il reste en prison. Caroline Lafargue, Melbourne, France Inter.
Retour en France avec bientôt la possibilité peut-être de se procurer des médicaments en pharmacie sans ordonnance pour les petites urgences. Cet amendement au projet de loi santé est actuellement discuté en commission avant son examen dans l'hémicycle la semaine prochaine. Le texte a notamment pour vocation de soulager les malades qui vivent dans des régions où il est très difficile de consulter rapidement un docteur. Et justement, hier soir en commission, les députés ont voté le principe d'un stage obligatoire en zone sous-dotée pour les étudiants en médecine entre le deuxième et le troisième cycle. Que la montagne est haute, affronter le FC Barcelone au Camp Nou en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions après un 0-0 au match aller. Mais l'Olympique lyonnais a ses chances ce soir avec le retour du capitaine Nabil Fekir suspendu au match aller. Coup d'envoi à 21h. Hier soir, la Juventus Turin s'est qualifiée après sa victoire 3-0 face à l'Atlético. Et puis Manchester City n'a laissé aucune chance aux Allemands de Schalke 04, battus 7-0. À l'affiche, enfin, cette semaine, le nouveau film de Xavier Dolan, Ma vie, avec John F. Donovan, l'histoire d'une correspondance entre un jeune garçon et un acteur connu. Premier film en langue anglaise pour le réalisateur québécois Xavier Dolan, qui a connu, lui, la célébrité à 19 ans avec Comment j'ai tué ma mère. La célébrité, les célébrités dans son film, Nathalie Portman, Suzanne Sarandon, sujet au cœur de ce long métrage qu'a vu pour nous Eva Bétan.
C'est une scène commune à nombre de familles, mais ici elle est incandescente. Un petit garçon rentre de l'école, il se précipite sur la télévision pour retrouver sa vedette préférée, son visage irradie. Dolan introduit une notion supplémentaire, l'enfant est consolé de ce qu'il peut vivre par ailleurs. Le fil conducteur du film sera la relation épistolaire entre le jeune fan et la star. Xavier Dolan n'a pas 30 ans et déjà il s'intéresse à ce sujet américain par excellence, le rapport à la célébrité, qui est aussi un sujet personnel. Il n'est pas exclu que le cinéma qu'il pratique de manière active l'ait relié au monde. Alors oui, le scénario est bancal, qui n'équilibre pas bien tous les thèmes, comme celui important de la difficulté d'assumer son homosexualité à Hollywood. Mais le film vieillit bien, même très bien dans la mémoire, demeure l'essentiel. Il y a là plus de cinéma que dans nombre de films au cordeau. Il y a de l'intensité, nous ne sommes pas dans l'anecdote, nous sommes au cœur des sentiments. Et il y a de l'intégrité. Derrière l'apparence conciliante d'un film plus grand public avec Star, Xavier Dolan n'a rien renié du mélange d'innocence et de noirceur qui est le sien.
Ma vie avec John F. Donovan sort aujourd'hui sur les écrans.
Merci Agnès Soubiran.